C'est bien cela. Bonjour, bienvenue, enfin re-bienvenue. J'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes en forme. on va écouter Daniel, qui du coup, oui, a le merveilleux privilège de parler à l'heure de la sieste. mais ça c'est pas grave parce que vous allez voir que Daniel est passionnant. C'est le deuxième philosophe de la journée d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Daniel est prof à l'Institut public de Nogent. Il va nous parler de la doctrine sociale dans une perspective évangélique. Quelle relation entre notre foi et la société? Merci beaucoup Daniel pour ce que tu vas nous apporter. Je te laisse la parole.
Très bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, alors je vais maintenant essayer de partager l'écran pour avoir le PowerPoint. C'est pas ça. C'est
Tu lis de
pas
grands
ça.
auteurs, c'est ce que je vois.
Alors, partager l'écran, c'est ça, non?
Oui, c'est ça.
Ouais, mais faut. Ouais.
Voilà.
Puis après, tu peux
Ici.
là.
Voilà, très bien. Merci. Alors, mon intervention, comme le titre qu'elle porte l'annonce, je voudrais proposer quelques réflexions sur la relation entre notre foi et la société. Et j'emploierai le mot foi dans le double sens qu'il a en théologie, c'est-à-dire aussi bien le contenu de notre foi, ce que nous croyons, les vérités que nous croyons, que notre démarche subjective de foi, la foi qui est dans notre cœur, la foi que nous croyons et la foi par laquelle nous croyons. Notre foi a quelque chose à voir avec la société. Alors c'est vrai, comme les anciens théologiens le disaient, la Bible et la théologie portent sur Dieu et sur les choses divines. La Bible et la théologie n'ont pas vocation à remplacer les sciences, ni à nous instruire en détail sur les réalités terrestres. La Bible et la théologie nous parlent du salut et elles nous parlent de la glorification de Dieu. Mais la glorification de Dieu et le salut sont liés à l'ensemble de la réalité. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se déroulerait dans une bulle isolée du monde, dans une sphère privée totalement à part du reste. Si c'était le cas, ça nous laisserait en pratique obligés de nous débrouiller sans Dieu, ou comme si Dieu n'existait pas pour tout ce qui concerne cette vie terrestre ou la sphère publique. Pour conduire notre vie à être placée tout entière sous la seigneurie du Christ, la Bible et la théologie touchent aussi aux réalités terrestres, à ce qui relève au domaine des sciences, à ce qui touche à la société humaine. Elles nous permettent de dégager à ce propos des principes qu'il nous faut ensuite assimiler, qu'il nous faut penser et vivre, et que nous pouvons aussi présenter à nos contemporains. Le titre de mon intervention utilise aussi l'expression doctrine sociale. C'est une expression que j'emploierai comme une sorte de synonyme de éthique sociale, mais le mot doctrine a l'avantage de faire plus clairement ressortir le lien à la théologie. L'expression doctrine sociale est empruntée à l'Église catholique, qui a développé un corpus considérable de textes sur les sujets sociaux depuis la fin du XIXe siècle. Et on pourrait dire que une doctrine sociale, c'est un enseignement théologique sur les réalités sociales, sur la base de la révélation divine, dans le but d'orienter le comportement de ses destinataires. Un enseignement théologique sur les réalités sociales, sur la base de la révélation divine, qui a pour but d'orienter le comportement de ses destinataires. Je voudrais sélectionner quelques grands thèmes bibliques et théologiques qui me semblent de nature à éclairer la question du rapport de notre foi à la société. Alors j'insiste sur le fait que je serai sélectif, ma sélection dépendant de ce qui m'a semblé le plus pertinent pour le thème de la journée, et que je serai aussi schématique, tant dans mes affirmations que dans l'argumentation que je pourrais apporter pour les étayer, à la fois à cause de la limite de mes compétences et puis à cause de la limite du temps qui m'est imparti et aussi que mes affirmations sont révisables éventuellement. Ce n'est pas la pensée définitive sur les sujets dont je vais parler. Le premier point dont je voudrais parler concerne la création de l'être humain. La Bible, comme cela est bien connu, présente la création des humains avec l'affirmation qu'ils sont faits à l'image de Dieu ou en image de Dieu. Tenter d'élucider le sens exact de cette expression dépasserait le cadre de cette intervention. On pourrait, je crois, montrer que cela a quelque chose à voir avec le fait d'être avec Dieu dans une relation analogue à la relation qu'il y a entre un fils et une fille avec son père. Et pour notre propos, je voudrais souligner les points suivants. Premièrement, que les textes bibliques permettent d'affirmer avec assurance que quelles que soient les déformations que le péché a pu introduire dans l'humanité, les humains sont toujours créés en image de Dieu aujourd'hui après la chute. Deuxièmement, la création en image de Dieu concerne tous les humains. C'est quelque chose d'universel et aussi de contre-culturel. Il paraît qu'à l'époque où la Genèse a été écrite, le thème de l'image de la divinité existait, mais était réservé à une élite. Le pharaon est l'image de la divinité, mais certainement pas l'esclave. Pour la Bible, tout être humain est image de Dieu. Ça veut dire d'abord homme et femme. La différence des sexes, qui est structurante pour l'humanité, d'après le premier chapitre de la Genèse, est subordonnée à ce commun qu'est la création en image de Dieu. Cela veut dire ensuite riche et pauvre. Le livre des Proverbes fait jouer ce que j'appellerais la logique de l'image de Dieu pour nous appeler à avoir compassion du pauvre et à ne pas commettre l'injustice à son égard. Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait. Mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Proverbes chapitre 14, verset 31. Vous voyez le lien entre la manière dont on se positionne à l'égard du pauvre et la manière dont on se positionne à l'égard de Dieu. Et nous pouvons ensuite continuer à égrener les distinctions. La création en image de Dieu concerne chrétiens et non-chrétiens. Elle transcende les différences liées à l'ethnie, aux classes sociales, à la couleur de peau, à l'âge, à la maladie, au handicap, à l'orientation sexuelle. Elle concerne aussi bien les opprimés que les oppresseurs. Tous les humains sont créés en image de Dieu. Qui qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, quoi que ce soit qu'on leur ait fait, quel que soit l'état ou la situation dans laquelle ils se trouvent. Troisièmement, la création en image de Dieu a des conséquences éthiques. La Bible fonde ce qu'elle dit de la gravité du meurtre, ou même de la gravité de maudire un être humain, sur la création en image de Dieu. Il en va de même du souci du pauvre, comme nous l'avons vu, et plus généralement, du commandement de l'amour du prochain. Aimer son prochain est, comme le dit Jésus, semblable à aimer Dieu. Pourquoi semblable ? Parce que l'être humain est image ressemblante de Dieu. Pour le dire dans des termes plus modernes, nous pouvons affirmer que le fait de la création en image de Dieu nous apprend à regarder chaque être humain comme possédant une dignité inaliénable qu'il nous faut respecter. Quatrièmement, l'Écriture met la création en image de Dieu en lien avec une tâche que Dieu confie à l'humanité, une tâche que l'on appelle le mandat créationnel et qui pourrait être présentée comme le germe d'un projet de société. Il s'agit, dit la Genèse, d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et de la soumettre. Ce mandat est accompagné d'une bénédiction divine qui en rend possible la réalisation. Il implique que l'être humain a une prise sur les réalités terrestres. Il est appelé à les gérer pour la gloire de Dieu, pour le bien de son prochain et pour le bénéfice de la création elle-même. Ce mandat ne peut être accompli que de manière collective. Aucun être humain ne peut à lui tout seul multiplier, remplir la terre et la soumettre. Chacun devant jouer son rôle dans un ensemble qui va bien au-delà de ce qu'une personne seule peut faire. Et je pourrais encore profiter de la mention de la fécondité dans le mandat créationnel pour insister sur l'unité du genre humain qui se multiplie à partir d'une source commune et qui permet de dire que tous les humains sont frères et sœurs en humanité, avec la solidarité qui en découle. Nous pouvons dire de celui que Dieu met sur notre chemin qu'il est notre propre chair, comme une partie de nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à l'aimer comme nous-mêmes. Celui qui croit ce que l'Écriture enseigne sur la création, en particulier sur la création en image de Dieu, sur le mandat créationnel et sur l'unité du genre humain, a le fondement nécessaire pour vivre au sein de la société humaine en respectant la dignité de tous, en particulier de ceux qui sont plus faibles que lui ou qui sont différents. Il a aussi le fondement nécessaire pour participer de manière positive à la construction de la société, d'une manière active qui ne se laisse pas engluer dans le fatalisme, parce que les humains ont été équipés pour dominer la Terre, et qui soit aussi responsable, car les humains sont des intendants appelés à gérer une création qui appartient fondamentalement à Dieu. Dire que celui qui croit ces choses a le fondement nécessaire pour vivre en société d'une façon bonne et juste ne signifie pas, hélas, que nous soyons toujours à la hauteur ou cohérents avec ce que nous croyons. Le théologien sri-lankais Vinod Ramachandra a fait l'observation suivante que je voudrais vous citer, qui nous permet de faire un pas de plus, je cite. C'est le concept d'imago dei, d'image de Dieu, qui plus que tout autre a fourni les bases ontologiques pour les droits humains, dont les explications purement séculières manquent. Il est douteux que le respect pour tout être humain puisse s'épanouir dans des sociétés qui n'ont pas été touchées par la vision biblique. Les historiens de la médecine ont signalé, par exemple, que le soin pour les nouveau-nés souffrant de déficience n'était tout simplement pas un sujet de préoccupation dans l'Antiquité classique. Le caractère moral du meurtre des nouveau-nés malades ou mal formés ne semble pas avoir été remis en cause avant la naissance de l'Église chrétienne. Aucun écrivain païen, qu'il soit grec, romain, indien ou chinois, ne semble avoir soulevé la question de savoir si les êtres humains ont une valeur ontologique, inhérente, indépendamment de la valeur sociale, du statut légal, de l'âge, du sexe, etc. L'acceptation initiale de l'idée de valeur humaine inhérente dans la civilisation occidentale a dépendu d'une croyance selon laquelle tout être humain était formé à l'image de Dieu. Alors, si on accepte cette pensée, et là, j'ouvre un problème que je ne vais pas forcément chercher à résoudre, si on accepte cette pensée, elle nous met face à une problématique. Se pourrait-il que certaines affirmations clés pour la compréhension et l'organisation de la société aient besoin de bases théologiques pour tenir et aient besoin de la foi ou au moins d'une forme de croyance pour être acceptées? Et si c'est le cas, comment gérer ce fait? Est-ce que ça signifie que tant que nos interlocuteurs n'acceptent pas notre foi, nous n'avons rien que nous puissions construire ensemble? On ne va pas dire aujourd'hui, nous voudrions que l'on inscrive dans la Constitution française le respect de la dignité humaine sur la base de la création en image de Dieu. Et si on en croit la citation de Vinod Ramachandra, on a l'impression que sans cette base, ça ne tient pas. Vous voyez, là, il y a une vraie difficulté. La Bible nous met dans la position paradoxale de tenir un discours universel, mais qui suppose la foi pour être reçu. Je laisse pour le moment cette question ouverte. Et je passe à mon deuxième point, après avoir parlé de la création des humains, pour parler du sujet du péché. Et ce sera probablement la partie la plus développée de mon exposé. Le péché, son universalité et ses conséquences. Le troisième chapitre de la Genèse nous raconte la rupture entre Dieu et l'humanité, l'entrée du péché dans le monde. Pour notre sujet, je voudrais souligner deux points l'universalité du péché, j'irai relativement vite, et les conséquences du péché, je serai relativement développé sur ce point. Ce que signifie l'universalité du péché peut être formulé avec les mots de l'Ecclésiaste. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. La Bible ne connaît qu'une seule exception, il s'agit de Jésus. Ce que signifie l'universalité du péché, c'est que ça a des conséquences qui peuvent être particulièrement difficiles à entendre aujourd'hui. Si tous sont pécheurs, ça concerne aussi les personnes et les groupes opprimés, minoritaires, victimes. Aussi importantes que puissent être les différences qui existent entre les humains et les groupes humains, la Bible nous conduit à voir d'abord ce qu'ils ont en commun. Tous sont des créatures en image de Dieu, mais déchus. Cette vérité nous apprend à remettre en cause une manière somme toute assez fréquente de regarder le monde, à savoir celle qui répartit les humains dans des groupes de bons ou de méchants, en fonction de critères naturels, sociaux, culturels, politiques, ethniques, de comportements, d'orientation ou de pratiques spécifiques. Souvent, ce genre de catégorisation nous permet de nous sentir meilleurs parce que nous nous mettons dans le bon groupe. Parfois, de façon plus paradoxale, cela conduit à se mettre soi-même dans la mauvaise catégorie et à s'auto-accuser. Je m'en tiens là pour le moment sur la question de l'universalité du péché. Je passe à la question des conséquences du péché. Concernant les conséquences du péché, il faut dire d'abord que le péché n'a aboli ni la création en image de Dieu, ni le mandat créationnel. Nous sommes toujours image de Dieu et nous avons toujours ce mandat de multiplier, remplir la terre et la soumettre. Mais il a entraîné la rupture des relations entre l'être humain et Dieu, des êtres humains entre eux, et il a également affecté le lien entre l'être humain et le reste de la création terrestre. Le mandat créationnel contenait en germe le projet de société de Dieu pour l'humanité. Or, s'il s'accomplit toujours de manière partielle après la chute, il le fait de manière corrompue, ambiguë, mêlée d'échecs. Autrement dit, la société humaine elle-même porte les marques du péché. Elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Son organisation est atteinte. La Bible mentionne, par exemple, la polygamie, la violence et la vengeance organisées, l'esclavage, le projet collectif mauvais, Babel, des inégalités conséquentes entre des élites privilégiées et le peuple, des empires qui écrasent d'autres peuples. On réfléchit souvent de nos jours en termes de réalité structurelle, systémique ou institutionnelle. Cela me semble pertinent pour penser les dimensions sociales et organiques de l'humanité telle qu'elle a été créée par Dieu, à condition de préciser un peu. Et j'aimerais citer ici une observation qui m'a semblé très perspicace de deux auteurs, malheureusement je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, Jean-Michel Severino et Olivier Rey, selon laquelle, je cite, « l'histoire des sociétés industrialisées et émergentes montre que le développement entraîne une société vers une plus grande formalisation des règles au fur et à mesure de la dépersonnalisation des relations sociales, ainsi que vers une ouverture graduelle des champs économiques et politiques à la compétition. » Donc, quand une société se développe, ces règles se formalisent et il y a une forme de dépersonnalisation des relations sociales. Si je devais donner des exemples, comparer des modes traditionnels de solidarité à échelle de proximité avec l'organisation complexe de la sécurité sociale. Comparer la manière dont s'exerce l'autorité dans une petite communauté et puis un état moderne impersonnel. Or, il me semble que le monde de la Bible nous montre des relations sociales encore fortement personnalisées. Et que même si dans la Bible elle-même, on voit apparaître ce processus de dépersonnalisation des relations sociales, on reste quand même très souvent dans des relations très personnalisées. Et cela, ça nécessite une forme de discernement de notre part quand nous cherchons à appliquer les textes bibliques aux situations contemporaines. On ne peut pas voir des réalités structurelles dans le texte biblique trop rapidement. Et j'avertis en particulier qu'il faut bien distinguer une structure mauvaise d'un comportement collectif mauvais. Un comportement collectif, ce n'est pas la même chose qu'une structure. Il reste quelque chose de personnel dans un comportement collectif. La structure, elle tourne un peu toute seule, de manière un peu mécanique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les réalités sociales étant marquées par le péché, certains ont voulu parler de péchés sociaux, de péchés structurels, ou encore de structures de péché en rapport avec le fonctionnement social mauvais et ses effets néfastes. La doctrine sociale de l'Église catholique a proposé des analyses éclairantes à ce sujet en expliquant, je cite un texte de la doctrine sociale catholique, que l'accumulation et la concentration de nombreux péchés personnels a pour conséquence de telles structures. Je dirais qu'un certain nombre de personnes qui pêchent dans la même direction peut avoir comme conséquence que leurs actes ne s'additionnent pas simplement les uns aux autres, mais se renforcent et produisent des effets qui finissent par acquérir une forme de consistance propre. Les conséquences du péché impriment leur marque dans les lois, les institutions, les cultures que les humains développent, les pratiques qui sont considérées comme admises. Le racisme représente un assez bon exemple à cet égard. Nous devons donc reconnaître les réalités structurelles. La théologie du mandat créationnel que j'ai esquissé en disant que c'était une tâche collective dans laquelle chacun a son rôle à jouer permet de dire que la responsabilité que nous avons par rapport à ces structures, c'est précisément la réalité, la responsabilité de jouer notre rôle dans le mandat créationnel. Les réformateurs protestants auraient parlé de vocation. Il y a des personnes dont la vocation spécifique est de faire évoluer le système dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'on peut présupposer que c'est la vocation de tout le monde? Est-ce que d'autre part, nous pouvons penser que le simple fait de vivre soi-même dans une structure mauvaise suffit pour nous rendre personnellement coupables ou complices de la structure en question? Je crois pour ma part que ce n'est pas le cas. Si nous devons reconnaître les réalités structurelles, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas inverser l'ordre entre le personnel et le structurel. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui est ensuite devenu le pape Benoît XVI et qui était un immense théologien chrétien, avait supervisé un texte sur le sujet de la théologie de la libération qui s'intitulait « Libertatis Nuntius » et je voudrais en citer deux passages que je vais afficher. Le premier dit ceci « On ne saurait non plus localiser le mal principalement et uniquement dans les structures économiques, sociales, ou politique mauvaise, comme si tous les autres maux découlaient de leur cause, comme de leur cause de ces structures, de sorte que la création d'un homme nouveau dépendrait de l'instauration de structures économiques et sociopolitiques différentes. Certes, il y a des structures iniques et génératrices d'iniquité qu'il faut avoir le courage de changer. Fruit de l'action de l'homme, les structures, bonnes ou mauvaises, sont des conséquences avant d'être des causes. La racine du mal réside donc dans les personnes libres et responsables qui doivent être converties par la grâce de Jésus-Christ pour vivre et agir en créatures nouvelles, dans l'amour du prochain, la recherche efficace de la justice, de la maîtrise de soi et de l'exercice des vertus. Première citation. Deuxième citation, toujours du même texte. L'urgence de réformes radicales portant sur des structures qui sécrètent la misère et constituent par elles-mêmes des formes de violence, ne doit pas faire perdre de vue que la source des injustices est dans le cœur des hommes. Ce n'est donc qu'en faisant appel aux capacités éthiques de la personne et aux besoins perpétuels de conversion intérieure qu'on obtiendra des changements sociaux qui seront vraiment au service de l'homme. Car au fur et à mesure qu'ils collaborent librement par leur initiative et dans la solidarité à ces changements nécessaires, les hommes, éveillés au sens de leurs responsabilités, grandiront en humanité. L'inversion entre moralité et structure est imprégnée d'une anthropologie matérialiste incompatible avec la vérité de l'homme. Alors, les trois points sur lesquels je vous invite à méditer pour vous-même dans ces citations sont les suivants. Premièrement, que les structures mauvaises existent vraiment et qu'il faut les changer avec courage. Deuxièmement, le fait que les structures sont des conséquences avant d'être des causes. L'idée que si on cherche le lieu d'où proviennent les maux sociaux, on doit aboutir à des structures mauvaises, est une source de confusion. La source de nos maux provient de notre cœur. Les structures mauvaises, nous les trouvons lorsque nous explorons les conséquences du péché. Alors, c'est vrai que dans un deuxième temps, les structures auront aussi leurs effets et se transformeront également en causes. Mais cela ne devient jamais le lieu où se joue l'essentiel de nos problèmes. Pour les humains, le cœur du problème est toujours le problème du cœur. Et troisièmement, l'inversion entre moralité et structure est imprégnée d'une mentalité matérialiste. Alors, il faudrait explorer beaucoup plus en profondeur cette question des relations respectives entre le personnel et le structurel. Pour cette intervention, je veux me contenter d'ouvrir une piste de réflexion. Lorsque Jésus a été interrogé sur la question de savoir quel était le grand commandement de la loi, il a répondu en disant qu'il s'agissait du commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Il a ajouté qu'un second commandement lui était semblable, aimer son prochain comme soi-même. Et il a dit ensuite que toute la loi et les prophètes dépendaient de ces deux commandements. L'éthique biblique est une éthique de l'amour. Et l'amour est une question de relation de personne à personne. Tout le reste en dépend. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il n'y a pas de niveau suprapersonnel. Le niveau personnel est le niveau le plus élevé. Et tout le reste est infrapersonnel, y compris les structures sociales, les questions politiques, économiques, écologiques. Tout le reste doit être ordonné au souci des personnes. Le péché, qui est manque de conformité à la loi de Dieu, est lui aussi d'abord et avant tout une question de relation de personne à personne. Nos devoirs sont toujours directement à l'égard d'autres personnes. Et ils concernent notre rapport aux structures et à notre vie dans ces structures en fonction de notre vocation au sein du mandat créationnel et comme un moyen au service de l'accomplissement des deux commandements de l'amour. Il peut donc y avoir des structures marquées par le péché, mais il n'y a pas à proprement parler de péché structurel. Parce que, comme la doctrine sociale de l'Église catholique l'a très bien discerné, une structure n'est pas le sujet d'actes moraux. Un acte moral, ça a toujours pour sujet une personne. C'est une personne qui aime et c'est une personne qui pêche. Si l'on dit qu'une structure pêche, ça ne peut être que dans un sens analogique, voire métaphorique. Ce sont des personnes qui pêchent, et elles pêchent contre d'autres personnes, contre Dieu d'abord, contre le prochain ensuite. Je me permets d'insister sur cette priorité du niveau personnel sur tous les autres. Elle est liée, je crois, à ce qui fait l'une des spécificités du message biblique, à savoir l'affirmation que l'absolu est personnel. L'inversion de l'ordre entre le personnel et le structurel trahit l'influence du matérialisme et ou du panthéisme. Deux pensées qui, fondamentalement, sont incapables de discerner ce qui est le propre de la personne. Comment vous pouvez discerner, mettre quelque chose de spécifique à la personne dans une pensée matérialiste? Et comme elles sont incapables de discerner ce qui fait le propre de la personne, elles sont obligées de se rabattre dans leurs analyses sociales sur les catégories de force, de cause, d'effet, et elles ne peuvent proposer comme remède que des solutions qui sont profondément violentes, qui consisteront à contrer des forces estimées nuisibles par des forces plus puissantes. La violence pourra être celle physique de la révolution ou celle sociale de la manipulation ou de l'annulation. Dans une analyse assez fascinante des réponses structurelles à la pauvreté dans l'Ancien Testament, Émile Nicole écrivait ceci: « Depuis quelques décennies, on tient souvent le discours suivant « La morale, c'est bien gentil, mais il faut des mesures structurelles, les dispositifs juridiques nécessaires, les politiques économiques adéquates. Les deux sont indispensables, certes, mais la Bible semble bien tenir le discours inverse. Les dispositifs législatifs ne sont rien sans la conscience morale, la conduite morale qui permet de les mettre en œuvre, qui les prolonge, qui en corrige par charité, mot honni aujourd'hui, qui en corrige par charité les effets pervers inévitables. N'ayons pas honte comme croyants de mettre en pratique une morale, d'enseigner une morale. Cela concourt au moins autant à la solution des problèmes sociaux que les grandes décisions politiques. » Pour Émile Nicole, la loi de l'Ancien Testament considère le niveau moral comme étant plus fondamental que le niveau politique et le niveau religieux comme étant plus fondamental que le niveau moral. Cela correspond, je crois, à la vision biblique globale. Je passe à la troisième et dernière partie de mon exposé que j'ai intitulé « Vivre dans un monde déchu pour lequel Dieu a un avenir ». L'éthique sociale biblique s'enracine d'abord et avant tout dans la doctrine de la création, l'image de Dieu, l'unité du genre humain, le mandat créationnel. Mais comme nous venons d'en parler longuement, le péché est entré dans le monde avec des conséquences catastrophiques pour la société humaine. La question qui se pose à nous maintenant est comment vivre dans ce monde déchu? Après la chute, Dieu fait deux choses. Il pose un cadre qui rend la vie possible dans un monde déchu. Et il écrit une histoire qui se déroule dans le cadre qu'il a posé. Dieu laisse la vie continuer. Il restreint et freine les effets du péché dont la pente est de précipiter le pécheur vers la mort. Mais il n'efface pas non plus d'un coup de baguette magique le mal qui a été commis et les conséquences qui s'ensuivent. Non seulement le mal n'est pas annulé, mais il se développe et entraîne avec lui un cortège d'horreurs. Mais l'action de Dieu dans le monde n'est pas seulement négative. Il continue à faire du bien à sa création, d'où la présence de tant de réalités bonnes, belles et réjouissantes autour de nous. On parle de grâce commune pour cette action de Dieu qui n'est pas la grâce du salut et qui s'étend d'une manière ou d'une autre à tous les humains et même à la création terrestre non humaine. Dans ce cadre, Dieu écrit une histoire, l'histoire du salut. Le sens de la grâce commune, c'est de rendre possible l'accomplissement du projet de Dieu en Jésus-Christ. Et cette histoire du salut comprend plusieurs étapes, une longue préparation dans l'Ancien Testament, l'accomplissement du salut avec l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, le temps de l'Église et de l'évangélisation du monde dans lequel nous nous trouvons, l'instauration pleine et entière du royaume de Dieu avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera, où le mal sera totalement aboli et où les rachetés de l'agneau de Dieu régneront sur la terre, c'est-à-dire le temps où le mandat créationnel sera parvenu à son plein accomplissement. Le monde est donc déchu, mais il a un avenir. Dans un monde déchu, Dieu continue à rendre témoignage de ce qu'il est. Il est bon. L'apôtre Paul affirme que Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, c'est-à-dire lui tourner le dos, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. L'action par laquelle Dieu fait du bien aux humains dans un monde déchu devrait susciter en nous la reconnaissance. Quand l'apôtre Paul appelle les chrétiens à prier pour tous les humains et en particulier pour les autorités politiques, il dit de le faire avec des actions de grâce. Autrement dit, quand nous prions pour nos contemporains et pour ceux qui nous gouvernent, nous ne devrions pas seulement demander leur conversion. Nous ne devrions pas seulement demander que Dieu leur accorde la sagesse dont ils ont besoin ou que Dieu les guide. Nous devrions dire merci. Quelle relation entre notre foi et la société ? Notre foi nous apprend à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait de bon, de beau, de vrai, de juste au sein de la société humaine, et pour cela, à chercher à le mettre en valeur, à le discerner. Une éthique sociale fera entendre une tonalité très différente selon qu'elle sera développée dans un contexte de reconnaissance recherchée ou au contraire d'indignation et de colère entretenue. Dieu fait continuer la vie dans un monde déchu, mais il n'annule pas le péché et ses conséquences. Sa grâce commune ne régénère pas, elle ne renouvelle pas, elle ne transforme pas les réalités terrestres. Et ce discernement nous avertit contre toute perspective utopiste. Jésus affirme que la disposition de la loi de Moïse sur la lettre de divorce qu'un homme pouvait donner à sa femme allait contre le projet initial de Dieu, en Genèse 1 et 2, mais qu'elle a été introduite à cause de la dureté du cœur de l'homme. Cela implique pour l'organisation de la société que certaines choses qui sont des péchés, pour lesquelles les humains devront rendre des comptes à Dieu, devront être tolérées dans la société. Ce n'est pas parce que quelque chose est mal qu'il faut faire une loi contre, pas nécessairement. Tolérer ne veut dire ni approuver, ni légitimer, mais supporter patiemment. On accepte alors que des réalités et même des personnes soient abîmées et amoindries pour éviter qu'elles ne soient détruites. Je crois qu'il s'agit là d'un des aspects de la vision biblique des choses qui est le plus difficile à admettre pour nos contemporains. Nous n'acceptons pas ça. Quelle relation entre notre foi et la société ? Notre foi nous apprend à faire tous nos efforts pour pratiquer la justice, mais à être beaucoup plus modéré quand il s'agit de vouloir établir la justice. Notre foi nous apprend à être patient quand nous nous heurtons à la constatation de l'Ecclésiaste, ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être porté au compte. Et à attendre comme lui le jour où il y aura un jugement universel. Cette patience est propice, je crois, à la proposition de solutions réalistes et de bon sens. Mon insistance sur la reconnaissance et sur la patience ne doit pas s'entendre comme un appel à la passivité ou à la résignation. Il y a une place pour l'action structurelle, pour réformer la société, en tout cas pour ceux dont c'est la vocation. Et les résultats positifs peuvent parfois être spectaculaires. Mais en même temps, pour parvenir à une situation satisfaisante, il faudrait que tout le monde joue correctement son rôle dans le mandat créationnel. Ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas tant que nous vivrons dans ce monde déchu. Et il faut constater, comme le dit l'Ecclésiaste, qu'un seul pécheur suffit pour anéantir beaucoup de biens. Mon insistance sur la reconnaissance et sur la patience ne doit pas non plus s'entendre comme une condamnation de toute forme d'indignation ou de colère face au mal et à l'injustice. Il y a une place pour la colère. Mais souvenons-nous que si nous servons un Dieu qui est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour, il est aussi celui qui est lent à la colère, qui ne garde pas sa colère à toujours, que sa colère dure un instant mais sa faveur toute la vie. La colère a une place dans notre vie, mais elle ne doit pas en être la note dominante. Quelle relation entre la foi et la société ? La foi chrétienne tourne les regards vers Jésus. Jésus n'est pas venu apporter une norme nouvelle en matière sociale. Il est venu accomplir les exigences de la justice de Dieu à notre place, par son obéissance à ce que la loi commande et par son acceptation du châtiment mérité par notre désobéissance. Il nous a donné un modèle, et parce que la condamnation qui pesait sur nous a été levée, il est maintenant possible pour nous de commencer maintenant, ensemble, à marcher à sa suite et de donner l'exemple d'une communauté qui fonctionne différemment de la société. Jésus a ouvert la voie de l'espérance. Par lui, il y a non seulement un avenir pour notre âme, mais aussi pour notre corps et pour l'ensemble de la création. Rien de ce que nous faisons de bien dans le temps présent, dans la société humaine, ne sera perdu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Alanisius avait suggéré que le ton que nous employons avec nos contemporains quand nous leur parlons de ce que nous préconisons pour la société humaine pourrait être quelque chose comme suit, je cite, « Voici comment nous, chrétiens, nous examinons la situation sur la base de notre foi et ce que nous recommandons. Écoutez, vous y trouverez peut-être quelque chose qui vous semblera éclairant. » Fin de citation. Peut-être qu'ils n'écouteront pas. Mais peut-être qu'ils écouteront quand même, au moins un peu. Peut-être Dieu s'en servira-t-il dans sa grâce commune pour freiner le mal, je ne dis pas pour récupérer l'ensemble de la création en image de Dieu avec toute la théologie qui va avec, mais ça peut peut-être influencer pour freiner le mal, pour maintenir une bénédiction dans le monde présent. Et peut-être que si nous vivons vraiment dans la reconnaissance, dans la patience et dans l'espérance au sein de ce monde déchu, Dieu s'en servira pour conduire certains à entrer dans son royaume céleste. Quoi qu'il en soit, notre responsabilité, c'est d'être fidèle à notre vocation et d'aimer notre Dieu et notre prochain. Que Dieu nous accorde de le faire afin que les humains en viennent à le glorifier, lui. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Daniel. Il était impossible de s'endormir, je pense. Vraiment, c'était super. Et voilà, il est 14h30. Et donc, nous avons la place, je pense, pour une question. Et donc, Élie a levé la main. Élie, en direct de la rue Serpente, tu peux poser ta question.
Mais si quelqu'un a une question plus pertinente que moi, il peut lever la main aussi. Mais moi, ma question, c'était sur les structures et le fait que, considéré comme fondamental, trier un point de vue marxiste, je fais l'association comme marxiste, mais matérialiste, et notamment, je pense, du coup, le marxisme est une preuve, vraiment, son but, c'était d'être une vision matérialiste, et il s'ensuit que, voilà, pour lui, la structure capitaliste est fondatrice. Et donc, toi, tu as bien relevé ça, que c'était une vision du monde matérialiste. Mais en même temps, les structures, si elles sont des conséquences, peuvent devenir des causes aussi. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça... Il y a une pertinence en tant que chrétien d'accepter ce présupposé matérialiste en tant que méthode de travail, un peu comme en sciences, en physique, par exemple, on a une méthodologie matérialiste, mais c'est un point de vue pragmatique, quoi. C'est pas d'un point de vue, on considère pas, enfin, elle est méthodologique, quoi. C'est du matérialisme méthodologique. Et donc, c'est pas accepter le présupposé comme étant ontologiquement vrai, mais comme étant un axe de travail qui permet de discerner des choses, quoi.
En fait, je n'ai pas voulu dire que le fait de reconnaître l'existence de structures sociales marquées par le péché qui ont des effets et donc qui sont des causes était matérialiste. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des structures marquées par le péché qui ont des effets mauvais et qui sont des causes. Ce qui est matérialiste, c'est l'inversion entre la moralité et la structure. Autrement dit, c'est le fait de considérer que le niveau structurel est le plus fondamental Et c'est de ne pas voir que si les structures peuvent être des causes de certains maux sociaux, elles sont d'abord des conséquences de choix mauvais qui résident dans le cœur des humains. Donc, il y a une place pour une analyse, même en termes causaux, des structures et de leurs effets. Je vois pas, la causalité n'est pas en soi quelque chose de matérialiste, ça existe. Mais il s'agit de discerner quelle est sa juste place. Et donc, pour moi, accepter de faire une place dans l'analyse, par exemple, des questions de pauvreté, en se demandant quelle est la mesure de causalité néfaste de telle ou telle structure, c'est tout à fait judicieux. Je fais simplement remarquer que très souvent, les situations sont beaucoup plus compliquées que de se dire il y a une cause de la pauvreté ou de tel ou tel mot social. En réalité, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs causes, et dans un certain nombre de cas, je n'ai pas terminé ma réflexion à ce sujet, mais dans un certain nombre de cas, j'hésiterais à utiliser le mot « cause » parce que des fois, il s'agit davantage de facteurs favorisants que de causes à proprement parler. Une cause, c'est quelque chose quand même d'assez mécanique. Je prends ce stylo, je le lâche, il est sûr qu'il va tomber, il n'y a pas d'autre possibilité. Dans un certain nombre de situations, vous avez clairement des facteurs qui favorisent certaines choses, mais ce n'est pas si mécanique que ça. Et parfois, deux personnes dans le même milieu vont évoluer de manière très différente. Et ça devient très, très complexe de simplement dire, voilà, la cause, c'est ça. Alors qu'il y a une multitude de causes. Et puis, en plus, il y a des choses qui ne sont pas forcément des causes à proprement parler. Mais parler en termes de causes structurelles, pourvu qu'on sache maintenir cela à sa juste place et avoir une analyse suffisamment nuancée, il n'y a pas d'objection pour moi à cela. Et ce n'est pas concéder, même de manière méthodologique, faire des concessions, même méthodologiques, à des présupposés matérialistes.
Merci beaucoup. Selon le programme, nous allons maintenant avoir des petits groupes de discussion. Et pendant ces petits groupes de discussion, vous allez simplement avoir la possibilité d'exprimer votre avis, de dire en fait ce que les différentes interventions ont provoqué en vous comme réflexion, et puis d'en parler, de débattre les uns avec les autres. Et on se retrouve à 15h15, si je ne m'abuse. C'est ça, 15h15. Marignan, bien sûr. Eh bien, à tout à l'heure. Je laisse tout le monde revenir. J'espère que vos discussions ont été intéressantes, passionnantes. Et donc maintenant vient le dernier moment de cette journée où nous allons écouter Matthew Sanders, qui est pasteur de l'église baptiste Paris-Centre, et qui va nous répondre à la question de la journée au final. Le chrétien est-il un éveillé ? Donc bonjour Mathieu, et on a hâte de t'écouter.
Bonjour, merci beaucoup. Johan, tu me confirmes que je peux faire un partage d'écran directement, je pense.
Hein. Ouais, je confirme.
Ok. Alors. Accordez un petit instant, je vais mettre ça là où il faut. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. J'ai hésité à le dire, mais je vais le dire quand même au cas où. Simplement, si vous me trouvez particulièrement peu dynamique, sachez que je ne suis pas en forme du tout aujourd'hui. Mais je pense que pour 40-45 minutes d'intervention, ça devrait aller. Mais je voulais juste m'excuser de mon état de forme qui est pas au top aujourd'hui. Et ça tombe assez bien pour moi, je dois dire, que ça soit en Zoom et pas en présentiel. Ceci étant dit, je vais essayer de faire illusion sur la forme. Sur le fond, j'espère être à peu près dans le vrai. C'est la parole de Dieu, en tout cas, qui est vraie. Mon commentaire, évidemment, il sera ce qu'il est, imparfait. Mais alors, il y a une bonne dizaine d'années, au moins, un collègue pasteur évoquait l'action que son église allait entreprendre pour le dimanche de Pâques. Et ils avaient pour projet d'aller sur la butte Montmartre au lever du soleil, le dimanche matin de Pâques, et d'interpeller les gens aux alentours. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes aux alentours un dimanche de Pâques au lever du soleil à Montmartre, mais de les interpeller en disant « Jésus est ressuscité, réveillez-vous. Jésus est ressuscité, réveillez-vous. » Alors, la phrase, elle est belle et elle est bibliquement riche. Et d'emblée, ça permet de discerner ce qui, même si ce n'est pas une parole qu'on trouve telle qu'elle dans la Bible, mais ça pose la question d'un lien entre la notion de réveil ou d'éveil et la notion de résurrection. Ces deux notions ne sont pourtant pas équivalentes. Alors certes, en termes de vocabulaire dans le texte biblique et dans le texte original biblique, il y a un certain recoupement entre les verbes utilisés pour dire « réveiller » et « ressusciter ». Parfois, ce sont les mêmes mots, ou bien le même champ lexical en tout cas, qui sont utilisés. Mais pour autant, le Nouveau Testament fait bien la différence entre les deux notions, une simple notion d'éveil et puis la notion de résurrection. Et d'ailleurs, souvent, quand les textes parlent clairement de résurrection, ils utilisent l'expression « d'entre les morts ». Résurrection d'entre les morts. Ça a donné d'ailleurs une sorte de jargon chrétien qui n'est pas tellement compris en dehors de nos milieux, je pense, ressuscité d'entre les morts, parce que c'est une traduction très littérale de ce que dit le texte original. Et dans la pensée juive de l'époque du Nouveau Testament, la notion de résurrection, elle est très bien attestée. C'était un sujet de débat. On apprend par exemple que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et ce à quoi renvoie ce mot ne fait aucun doute, la résurrection corporelle après la mort. Tandis que l'éveil, au-delà de son sens littéral, évoque plutôt dans les textes du Nouveau Testament une façon d'être en alerte, attentif, lucide, vigilant. On ne dort pas, on est éveillé, on veille. Donc, entre éveil et résurrection, on pourrait être tenté de dire qu'en fait, il n'y a aucun rapport. Alors, est-ce que mon collègue pasteur aurait eu tort de réunir ces deux notions dans cette belle phrase « Jésus est ressuscité, réveillez-vous ». En fait, non, je ne pense pas qu'il ait eu tort. Et là où ces deux notions se rencontrent, me semble-t-il, c'est sur la notion de jour. Jésus est ressuscité au début du jour. Littéralement, c'est vrai, mais symboliquement aussi. Sa résurrection inaugure un jour nouveau. Les ténèbres passent, la lumière jaillit, l'espérance renaît. Et on comprend dès lors que l'apôtre Paul associe plusieurs fois la vie avec Christ à une vie vécue de jour et non de nuit. Une vie vécue à la lumière, une vie vécue sans se cacher. Sans vivre dans la honte ou la dissimulation qu'on associe à la nuit. Je cite par exemple cette parole en Éphésiens 5, 14. Alors probablement, bien qu'on n'ait pas de certitude, mais très probablement quand même, Paul cite ici une parole d'un cantique ou d'une parole de l'Église primitive. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et ici, on voit qu'il y a cette jonction que Paul fait de manière frappante entre la notion d'éveil et la notion de résurrection. Pour suivre le Christ ressuscité, nous explique l'apôtre Paul, il va falloir se réveiller. Mais pas simplement se réveiller tranquillement après une bonne nuit. Non, il va falloir. C'est un réveil plus fondamental qui est nécessaire. Un réveil que Paul n'hésite pas ici à qualifier de résurrection. Relève-toi d'entre les morts. Alors, le chrétien est-il un éveillé ? Réponse oui. Donc, on pourrait presque s'arrêter là. Mais je vous rassure, ou je vais peut-être décevoir quelques-uns, on va quand même aller un peu plus loin dans l'exploration de ces notions, même si on a déjà couvert un petit peu de terrain. Et j'aimerais commencer par considérer un épisode du Nouveau Testament qui, dans un sens, me paraît à l'origine de toute une réflexion ultérieure dans le Nouveau Testament et particulièrement chez Paul sur la notion d'éveil. Et puis nous considérerons dans un deuxième temps un autre texte qui me semble assez représentatif de cette tradition néo-testamentaire et en particulier paulinienne. Donc par l'application que ce texte va faire, ce deuxième texte va faire de la notion d'éveil dans la vie chrétienne. Donc je vous propose le plan suivant. Veillez et priez, le point de départ de Gethsémané. Matthieu 26, 36, 46. L'épisode est raconté ailleurs, bien sûr. J'ai sélectionné le récit de l'évangéliste Matthieu. Et je vous invite. Et puis, deuxièmement, donc, étude de cas, des ténèbres de la nuit à la lumière du jour, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 8. Et puis, on aura une petite conclusion. Très bref. Donc, veillez et priez. Point de départ de toute cette réflexion. Je serais tenté de le situer dans cette parole bien connue que Jésus a prononcée alors qu'il était juste avant son arrestation dans le jardin de Gethsémané. Je lis dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 26, les versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit à l'heure. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse. À en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ? L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Dans le jardin de Gethsémané, Jésus vit ses dernières heures d'intimité avec ses disciples. Les disciples, et Jésus aussi sans aucun doute, sont épuisés. Les dernières semaines ont été éreintantes, il suffit de lire les évangiles jusqu'à cet épisode-là pour voir tout ce qui s'y est passé. Il y a une pression extrêmement forte qui s'exerce sur Jésus et ses disciples depuis déjà pas mal de temps. C'est la nuit. Ils sortent tout juste de prendre ensemble ce repas de la Pâque, jusque tard dans la soirée déjà. Il y a eu l'annonce de la trahison de l'un d'entre eux. Enfin, et atmosphère très lourde et pleine de chagrin. D'autant que Jésus, sans ambiguïté, a annoncé son départ. Alors c'est vrai, il a aussi annoncé sa résurrection. Il a annoncé que la douleur des disciples se transformerait bientôt en joie. Mais pour l'instant, il fait nuit, l'heure est sombre. Jésus s'apprête à être livré à la violence et à l'injustice des hommes. Les disciples sont épuisés et déboussolés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils font une sorte de blackout sur toutes les annonces de la résurrection. Et c'est après que tout d'un coup, ils se souviennent qu'il leur en avait parlé. Alors, quand Jésus les invite à prier avec lui, ils ne tiennent pas. Ils s'endorment une fois, puis une seconde fois, puis une troisième fois. Alors, est-ce que nous aurions fait mieux qu'eux? Je n'en suis pas certain. En tout cas, Jésus, qui part prier seul, quelques mètres plus loin, sans doute, les trouve à chaque fois endormis, ou du moins somnolents. Dans son humanité authentique, Jésus est blessé. Il est affecté par la passivité de ses amis. Dans ces moments terribles, à quelques heures de la croix, il ne peut même pas compter sur eux pour l'entourer convenablement. Il leur reproche donc littéralement, leur incapacité à rester éveillé. Mais Jésus ne va pas en rester à ce sens strictement littéral. Il va saisir l'occasion, et c'est frappant qu'il le fasse encore là, dans ces circonstances-là, il va saisir l'occasion pour leur donner comme une petite mini-parabole. Je lis les versets 40 et 41. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Certains ont pu se demander s'il fallait prendre Jésus uniquement au pied de la lettre ici. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation de vous endormir. Vous êtes bien intentionnés, les gars, mais vous ne tenez pas la distance. Priez pour rester éveillés. Mais ce n'est pas convaincant. Le contexte grave dans lequel une simple exhortation à rester éveillé, physiquement parlant, semble peu à propos. La portée des mots que Jésus utilise, tout comme justement la reprise de ces concepts par les apôtres plus tard, tout cela, il me semble, nous permet d'exclure une lecture uniquement littérale. Jésus donne ici à ses disciples une instruction qui va bien au-delà de la situation qu'il est en train de vivre à ce moment précis avec eux. Mais cette instruction, elle puise quand même sa source dans le contexte immédiat. Alors que l'ombre de la croix se fait pesante et imminente, que l'étau se resserre sur Jésus et les siens, Jésus veut exhorter ses disciples en vue de leur vie future à sa suite. Car eux aussi feront face au mal, à l'épreuve, à la tentation. Jésus va prendre le chemin de la croix littéralement, lui, et il va inviter ses disciples, il l'a déjà fait, à le suivre sur ce chemin symboliquement. Même si certains des disciples qui entendent cette parole vont aller jusqu'à la mort dans leur témoignage. Et le fait qu'ils s'endorment face à un enjeu aussi critique que la perspective de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus n'est pas bon signe. C'est mal parti déjà. Alors Jésus les prépare pour leur future vie de disciples. Quand le mal et l'épreuve les cerneront, eh bien, il les invite alors à se rappeler cette exhortation. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Autrement dit, et ça, je crois que c'est très, très important que nous l'entendions de la bouche de Jésus. Ne présumez pas de vos forces, les amis, nous dit Jésus. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais le mal sera régulièrement tapis à votre porte. Et par vous-même, vous serez bien faible face à lui. Vous aurez besoin de faire appel à Dieu, de rester en prière, de trouver vos forces dans sa grâce. Ce qui est frappant dans cette parole, c'est que Jésus donne lui-même l'exemple de ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces quelques heures dans le jardin? Il veille et il prie. Il prie le Père. Que va-t-il faire face à la tentation de se soustraire à la croix? Si on peut considérer ça comme une tentation, c'est une question complexe, mais il va rester, il va accepter l'injustice, la violence, l'opprobre pour accomplir le plan de Dieu, pour nous sauver. À l'inverse, que font les disciples? Ils s'endorment. Et que vont-ils faire face à la tentation de se dérober face au danger? Eh bien, ils vont se dérober face au danger. Ils vont abandonner Jésus. Pierre va même aller jusqu'à le renier 3 fois. Il ne veille pas, il ne prie pas, il cède à la tentation. Jésus, donc, est ici le seul à vivre ce qu'il enseigne. Mais il est bouleversant de voir qu'il ne va pas pour autant renoncer à emprunter le chemin de la croix. Après sa triple prière poignante et mystérieuse au Père de lui épargner la coupe, je ne vais certainement pas entrer en plus de détails là-dedans, ça nous ferait sortir de notre thème, mais Jésus est déterminé. On voit cela après la troisième prière, deuxième partie du verset 45, « L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Levez-vous et allons-y, Jésus va carrément aller au-devant de ceux qui viennent l'arrêter. Jésus ne s'est pas dit que ses disciples défaillants, un peu pathétiques, ne valaient pas la peine. Malgré leur totale insuffisance, qui est la nôtre aussi, Jésus va aller mourir pour eux. Même pour Pierre, qui va dire trois fois qu'il n'a rien à voir avec Jésus. Et s'il les appelle à veiller et prier, c'est parce que c'est lui qui va aller à la croix, à leur place, à notre place. Et donc, nous n'avons pas à aller nous-mêmes au cœur des ténèbres. C'est Jésus qui y est allé pour nous. Ce mal qui nous cerne toujours, il a été vaincu. C'est pour ça que Jésus ne nous appelle pas à aller vaincre le mal, mais à prier, à nous connecter à ce Dieu qui a fait déjà, qui a accompli déjà tout pour vaincre le mal pour nous. Nous sommes appelés à veiller et prier sur le fondement parfaitement ferme de l'obéissance de Jésus-Christ pour nous. Nous pouvons d'autant plus prier que nous savons que nous sommes les enfants adoptés du Père en Jésus-Christ, des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu. Quel incroyable réconfort! Pour autant, l'exhortation de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation n'est pas un simple avertissement qui resterait juste théorique. Le danger est réel. Si nous nous endormons face au mal, c'est facile à faire. C'est sournois. C'est progressif souvent. Si nous nous endormons face au mal, si nous capitulons face au péché qui vient de l'intérieur comme de l'extérieur, eh bien, nous ne tiendrons pas dans la foi en Jésus-Christ. Par nous-mêmes, nous ne tiendrons pas. Car c'est une foi qui nous appelle précisément à rester éveillés, alertes face au mal qui domine encore ce monde déchu. Donc, les disciples de Jésus-Christ sont appelés à être éveillés, mais pas en puisant dans leur propre force. Leur éveil viendra plutôt de leur exposition à la lumière de Jésus-Christ dans leur vie. Et ça nous amène à notre étude de cas, en général, elle restera brève, sur un des textes du Nouveau Testament qui fait appel à cette thématique de l'éveil et du sommeil. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi d'examiner tout particulièrement un extrait de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 5 à 8. Alors, je vais lire le texte dans un instant. Typiquement, lorsqu'on étudie ce texte, on poursuit jusqu'au verset 11 qui vient clore la section. Mais pour rester focalisé sur la notion d'éveil et de sommeil, j'ai estimé un peu préférable de m'en tenir au verset 1 à 8. Je vous invite donc à lire cet extrait. Quant à l'époque et au moment, donc 1 Thessaloniciens 5, verset 1, quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Le contexte de ce texte est le suivant. Les chrétiens de Thessalonique s'interrogent sur tout ce qui concerne le retour du Seigneur à la fin des temps. Dans une première section, dans la section plutôt qui précède, à la fin du chapitre 4, Paul a rassuré ses chrétiens sur le fait que leurs amis, leurs parents, qui sont morts alors qu'ils avaient cru en Christ, n'étaient pas perdus et seraient pleinement inclus dans la résurrection au dernier jour. Maintenant, dans la section qui nous intéresse, l'apôtre, après avoir d'une certaine manière expliqué comment se passerait le retour du Seigneur, évoque le timing de cette venue. Et ce qu'il affirme d'emblée, c'est que il ne pourra pas donner d'indication précise à cette question. Versets 1 et 2, « Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. » Une venue inattendue. Et donc, par définition, la date et même l'époque de cet événement final est inconnue. Et Paul va employer une image qui remonte à Jésus lui-même, l'image du voleur. Pour retrouver les origines de cette image, je vais citer Matthieu 24, 42 à 44. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. C'est intéressant de voir une sorte de jonction que Jésus fait à Gethsémané avec ce qu'il a déjà dit là dans son discours sur la fin des temps. Paul donc paraphrase et résume cette image donnée par Jésus en rappelant que le retour du Seigneur, de Jésus dans sa gloire, sera aussi disruptif qu'un voleur qui arrive en pleine nuit. Et de même que pour un voleur, si on ne peut pas prédire sa venue, on peut tout de même s'y préparer, eh bien, on peut se prémunir contre le risque d'un voleur. Même si on ne sait pas par définition quand il va venir, on peut s'y préparer. Alors, dans cet extrait de Matthieu, le raisonnement de Jésus est un tout petit peu complexe à première vue, car il donne en exemple un maître de maison qui sait, lui, à quelle heure vient le voleur. Verset 43, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé. Or, ensuite, il nous dit que nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous agir comme ce maître de maison? C'est un peu étonnant à première vue. Mais si on creuse un tout petit peu, en fait, on comprend aisément le raisonnement. Ce que Paul veut dire est ceci. Restons éveillés comme si nous savions quand cela aura lieu. Soyons suffisamment préparés pour que, précisément, même si nous ignorons le jour et l'heure, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Car même si nous ne savons pas quand ce jour aura lieu, nous savons qu'il aura bel et bien lieu. Et donc, nous dit l'apôtre, vivons dans la même attitude d'éveil que quelqu'un qui attendrait le voleur au tournant, sachant à quelle heure il allait apparaître. Car face à un événement inattendu, eh bien, la préparation à cet événement fera toute la différence. Donc, nous sommes appelés à être éveillés comme si nous savions que le Seigneur Jésus allait revenir demain. Et ceux qui auront fait fi de cette perspective, qui vivront dans l'insouciance, dans la prospérité, dans ce qu'ils considèrent comme la paix, seront totalement pris au dépourvu. C'est ce que l'apôtre explique au verset 3. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte. Et aucun n'échappera. Alors, Paul est un peu audacieux de faire une analogie avec la grossesse et l'accouchement. Ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter ici, mais plutôt sur la première partie du verset. Plutôt que de penser que Jésus reviendra forcément en temps de paix au sens géopolitique, il faut plutôt voir ici, à mon sens, la présomption des hommes qui pensent connaître leur propre paix et sécurité sans Dieu. Des hommes et des femmes qui dorment spirituellement, qui ne s'attendent absolument pas à ce que le Seigneur revienne. Et c'est là que les chrétiens doivent se démarquer en restant, pour leur part, éveillés. Je cite les versets 4 à 6. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants. Et faisons preuve de modération. » Ici, à nouveau, Paul associe deux images qui sont naturellement proches. Les ténèbres et le sommeil, d'une part, la lumière et l'éveil, d'autre part. Comme toujours, la pensée de l'apôtre est fine, ici. Ceux qui ont confié leur vie à Christ ne sont pas dans les ténèbres, verset 4. Ils sont enfants de la lumière, enfants du jour, précise-t-il. Mais il me semble que quand on regarde le texte de près, on lit entre les lignes et presque explicitement l'idée que les chrétiens vivent dans la nuit, mais nous vivons dans la nuit comme si c'était le jour. Versets 5 et 6, nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres, ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Voilà, un peu comme lorsqu'on est en plein décalage horaire, on doit être affairé quand les autres dorment parce qu'on est naturellement réveillé. Le reste des hommes dorment car c'est la nuit. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 19, « Le monde entier est sous la coupe du diable. » C'est la nuit et c'est dans cette nuit que nous vivons. Mais nous vivons en étant identifiés, nous, au jour et à la lumière. J'y reviens dans un instant. Ceux qui ont lu les livres ou vu les films de la série Narnia se rappelleront que le pays de Narnia est enfermé dans un hiver permanent sous le règne de la sorcière blanche qui représente Satan. L'été et la chaleur sont de lointains souvenirs. Je ne sais pas d'ailleurs si ceux qui ont fait réaliser la Reine des Neiges se sont inspirés de cette histoire. Il faudrait se renseigner. Mais en tout cas, l'été et la chaleur sont de lointains souvenirs. Mais lorsque le lion Aslan, le roi légitime de Narnia, figure du Christ, commence à préparer son retour, eh bien, on constate que la neige et la glace commencent à fondre. Discrètement d'abord, et puis de façon incontestable. Et des bourgeons commencent à apparaître. Le printemps commence. Le règne de la sorcière blanche est attaqué. Sa défaite finale est annoncée. Eh bien, les disciples de Jésus, porteurs de la parole de Jésus, ne sont-ils pas précisément ceux et celles qui annoncent le jour qui vient, et non pas seulement qui l'annoncent, mais qui, pour utiliser le terme de façon un peu impropre, mais ce n'est pas grave, qui l'incarnent d'une certaine façon le jour qui vient. De son côté, Jean écrit au début de son évangile, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Alors, ici, certes, la lumière, c'est Jésus. Il brille dans les ténèbres, d'une manière unique. Et nous ne sommes pas Jésus, bien entendu. Mais nous sommes appelés, il me semble, à être porteurs de sa lumière. C'est pour ça que Jésus, qui dit « Je suis la lumière du monde » dans l'évangile de Jean, dit « Vous êtes la lumière du monde » dans l'évangile de Matthieu. Le tableau général qui est dépeint dans le Nouveau Testament est celui-ci. C'est encore la nuit, mais le jour va bientôt se lever. Alors c'est un bientôt à l'échelle de Dieu, qui n'est pas la nôtre. Mais l'échéance est certaine, incontournable. Et si nous appartenons à Jésus-Christ, notre appartenance n'est déjà plus à ce monde de ténèbres, mais à la lumière du jour qui vient. Nous sommes tiraillés, bien sûr, comme l'explique Paul, en particulier dans sa lettre aux Romains, chapitre 8. Nous attendons encore ce jour, et en attendant, la nuit nous cerne. Alors, comment faire quand on appartient au jour, mais que c'est la nuit? Eh bien, on vit déjà comme s'il faisait jour. On ne dort pas, on veille, on prie, on se prépare. Et Paul va ajouter encore une image, à partir de ce champ lexical du jour et de l'éveil, par opposition à la nuit et au sommeil. La nuit, on dort, écrit Paul, ou bien on boit, on s'enivre, on boit à l'excès. Dodo ou nightlife, les deux options qui sont évoquées ici. Verset 7, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais pour ce qui nous concerne, écrit-il, nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, soyons sobres, hein, c'est en référence à l'alcool que cela est dit ici, à cette image qui est donnée juste avant. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se concrétise? Paul multiplie les images dans ce texte, et on pourrait éventuellement s'y perdre un peu. Rester éveillé, être enfant du jour, rester sobre par opposition à s'enivrer, tout ça, ça renvoie vers quoi? Et notamment, est-ce que ça veut dire passer chaque jour à se demander si Jésus reviendra aujourd'hui même, à se demander activement? Un œil sur l'actualité peut-être, un œil sur certaines sections de l'Apocalypse éventuellement, pour essayer de discerner l'échéance. Précisément pas, il me semble, parce que nous avons vu dès le début de cette section que nous ne connaissons pas le jour et l'heure et que de toute façon, le retour du Seigneur sera inattendu. Veiller, ce n'est pas cela, ce n'est pas tomber dans une sorte de survivalisme où on se calfeutre, on chante des cantiques et on attend le retour du Seigneur. Rester éveillé dans la perspective du retour du Seigneur, c'est plutôt conformer de plus en plus sa vie à Jésus-Christ pour que son retour soit de plus en plus bienvenu pour nous. Pour que la venue du Seigneur ne ressemble pas justement à celle d'un voleur qui vient tout interrompre ce que nous avions prévu, mais plutôt que ce soit la venue de celui qu'on attendait depuis si longtemps. Vivre centré sur Jésus pour qu'en le rencontrant, par notre mort ou son retour, eh bien, nous connaissions l'aboutissement de tout ce vers quoi notre vie était orientée. Et donc, plutôt qu'une intervention qui viendrait profondément déranger nos projets de vie, « Ah non, j'avais vraiment, Seigneur, ce n'est pas le moment, j'avais vraiment plein de choses prévues », et nous prendre au dépourvu, Eh bien, se préparer au retour de Jésus-Christ, c'est penser, c'est croire, c'est dire « Maranatha, viens Seigneur ». Et c'est orienter nos vies dans cette perspective. C'est ce qu'indique Paul à la fin du verset 8. En ayant à nouveau recours à des images, côté métaphore, il est particulièrement en forme dans ce texte. Verset 8, « Mais nous qui sommes enfants du jour, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. » Je ne vais pas développer plus la question de ces deux images militaires, la cuirasse et le casque. J'attirerai plutôt notre attention sur la présence ici de ce qu'on appelle les trois vertus théologales, en jargon théologique, la foi, l'amour et l'espérance. Si on pense plutôt à 1 Corinthiens 13, on va dire la foi, l'espérance et l'amour, mais ce sont les mêmes mots. Vivre de jour, vivre éveillé, c'est vivre dans ces dispositions-là, dans la foi en Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu, du frère et de la sœur, du prochain, dans l'espérance du salut pleinement accompli, dans une nouvelle réalité à venir. Alors, pour conclure, le chrétien est-il un éveillé ? Oui, on l'a vu, sans aucun doute. C'est même un vocabulaire qui est fréquemment utilisé. J'ai cité un texte de Paul, mais il y en a plusieurs autres. Le chrétien se prépare au jour qui vient en restant concentré sur l'essentiel, le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ et la vie transformée que ce salut nous conduit à vivre. Alors, quel rapport avec le wokisme ? Pas grand-chose, vous en conviendrez. Et je ne pense pas qu'il m'ait été demandé, si j'espère avoir bien compris la sollicitation, de particulièrement traiter ce sujet. Quelques mots peut-être tout de même. Nous venons de voir que vivre éveillé dans l'attente du retour du Seigneur, c'est vivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Assurément, cela implique d'être lucide face au mal. C'est ce que Jésus reproche aux disciples à Gethsémané, c'est qu'ils sont à côté de la plaque par rapport à l'enjeu. Or, le mal auquel nous sommes appelés à résister inclut toutes les formes d'injustice, de violence ou de mépris de l'autre parce qu'il est différent. Être éveillé dans la perspective biblique, c'est rechercher inlassablement le bien du prochain par amour pour lui. Plutôt, mais ça mériterait, je pense, tout un autre exposé que sûrement Daniel Lillon ferait beaucoup mieux que moi, plutôt dans le registre du plaidoyer, il me semble, que de la lutte. C'est, il me semble, la spécificité chrétienne. Plaider, parler, plutôt que lutter. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet maintenant. Être éveillé dans la perspective biblique, c'est rechercher donc inlassablement le bien du prochain. Et ça implique donc une sensibilité à la situation de l'autre, de celui qui souffre, de celui qui n'est ou celle qui n'est pas comme moi. Et une sensibilité qui n'est pas sans convergence avec certains aspects de ce qu'on appelle, de façon, ça a sûrement été bien expliqué ce matin, de façon très large et discutable, le mouvement woke. Mais une différence fondamentale entre la perspective chrétienne et celle de ce mouvement, si on peut dire, il me semble, réside d'une part dans le fait que le chrétien est au clair sur le péché qui affecte toutes les catégories humaines. Différemment peut-être, certainement, mais toutes sans exception. Le péché, c'est entre autres l'injustice, y compris sociale, raciale, etc. Mais c'est aussi parfois l'exploitation. Ça peut aussi, parce que le péché est tellement sournois et subtil, ça peut aussi être l'exploitation de certaines injustices pour en créer de nouvelles. Dans certains cas, lorsqu'on se lève contre quelque chose qui n'est pas bon, on crée quelque chose de pire encore. C'est le péché humain qui veut cela. Parce que le péché affecte tout, tout notre être, toute notre pensée, tous nos actes sont affectés par cette réalité du péché. Donc, même lorsqu'il y a du bon, le péché trouve le moyen de le faire dériver vers le mauvais. Et c'est pourquoi notre besoin le plus fondamental, le plus central, n'est pas telle ou telle revendication, même les plus justes et légitimes et nécessaires soient-elles. Et je ne suis absolument pas en train de remettre en question la légitimité de diverses revendications. Notre besoin le plus fondamental, c'est la grâce du Sauveur qui était, qui est et qui vient. Être éveillé, c'est être éveillé pour lui, pour son retour dans la perspective biblique. Notre besoin le plus fondamental, et au fond, je le crois, l'aspiration profonde de notre cœur, c'est une terre nouvelle où la justice habite, une terre remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau recouvre le fond des mers. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Mathieu. Et merci à tous les autres intervenants, puisque cette journée touche à sa fin. Je trouve que la plupart du temps, même presque tout le temps, le contenu des journées des réseaux pro sont bonnes, mais là j'ai connu quelques instants de jubilation pendant toute cette journée. J'ai trouvé que c'était encore meilleur que d'habitude. Donc vraiment, merci à tous nos intervenants. Merci Lionel, Timothée, David, Daniel et Mathieu. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Ça nous a donné matière à penser. Et puisque justement, ça nous a donné matière à penser et que ça nous donne de gros défis devant nous, je vous propose de terminer par la prière. Je vous invite à prier. Merci notre Père parce que nous savons que tu es souverain et que même si ce monde s'est éloigné de toi, eh bien, toi, tu diriges les événements de ce monde. C'est toi qui tiens toute l'histoire humaine dans le creux de ta main. Et merci Seigneur parce que même quand nous voyons des choses qui nous dépassent, même quand nous voyons des choses qui peuvent nous choquer, eh bien nous pouvons te les remettre en sachant que toi, tu sais ce que tu fais. Et merci pour cette journée où nous avons pu apprendre tant de choses sur ces revendications qui sont parfois légitimes. Et Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes de l'intelligence, que tu nous donnes de la sagesse pour savoir comment réagir, pour nous aider encore à comprendre encore plus ceux qui revendiquent, ceux qui sont dans cette idéologie woke. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve d'amour, aide-nous à faire preuve de patience, aide-nous à avoir cette intelligence sociale que Jésus avait quand il devait répondre à quelqu'un. Seigneur, aide-nous à faire preuve d'à-propos pour aimer nos interlocuteurs et en même temps répondre avec conviction selon ton évangile. Oui, Père, aide-nous à faire preuve de grâce et de vérité, les deux à la fois. Et nous savons que par nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous inspire et que tu nous aides à être des témoins efficaces, remplis d'amour et de vérité. Nous avons besoin de toi et nous intercédons pour notre monde, nous intercédons pour nos amis, nos voisins, nos proches. Que Seigneur, tu les éclaires. Tu les éclaires par ton esprit et qu'ils puissent avoir vraiment un accès à ton évangile, qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent être sauvés. C'est notre prière dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Eh bien, merci à tous.
Merci, Johan.
Merci de votre participation.
Merci, Johan.
Merci beaucoup.
Bon, vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour une prochaine journée des réseaux. Hein. Vous êtes les bienvenus dans tous les réseaux, hein, même si celui-ci est peut-être votre préféré. Vous êtes les bienvenus. Allez sur ami.gbu.fr pour vous renseigner et que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Bye.
Au revoir à tous.
Au revoir.